Chapitre 9. Navette pour la Lune. L'astronome russe était grand, maigre et blond. Son visage, sans la moindre ride, ne pouvait révéler ses 55 ans, dont 10 passés à construire l'observatoire radiotélescopique géant sur l'autre face de la Lune, que 2000 milles de roc abritaient des parasites terrestres.
Heywood, que l'univers est petit. Comment allez-vous? Et vos enfants?
Ça va, répondit aimablement Floyd, avec cependant une expression un rien absente. Nous parlons souvent des bons moments que nous avons passés ensemble l'été dernier. Il était désolé de ne pouvoir être plus sincère. Cette semaine de vacances à Odessa, en compagnie de Dimitri, avait été vraiment agréable.
Et vous... Enfin, je pense que vous allez là-bas, demanda Dimitri.
Oui. Je repars dans une demi-heure. Connaissez-vous Mr. Miller?
L'officier de sécurité s'était approché tout en se tenant à distance respectueuse avec une tasse de café.
Bien sûr. Mais posez donc cette tasse, Mr. Miller. Le docteur a une dernière chance de prendre une boisson civilisée. Ne la gâchons pas. Non, vraiment. J'insiste.
Ils suivirent Dimitri jusqu'à la galerie d'observation et se retrouvèrent bientôt assis à une table face au panorama mouvant des étoiles. La station numéro 1 accomplissait un tour par minute et la force centrifuge ainsi créée équivalait à la pesanteur lunaire. On avait pensé que c'était là un compromis satisfaisant entre la pesanteur terrestre et la pesanteur totale. De plus, cela permettait aux passagers en transit pour la Lune de s'accoutumer. La Terre et les étoiles défilaient en silence au-delà des baies. Cette partie de la station était actuellement à l'opposé du Soleil, autrement il eût été impossible de lever les yeux. La Terre elle-même, qui occupait une moitié du ciel, noyait dans son éclat les étoiles les plus brillantes. Mais déjà, elle s'estompait tandis que la station se dirigeait vers sa face nocturne. D'ici quelques minutes, elle ne serait plus qu'un vaste disque noir constellé des lueurs des cités. Et le ciel appartiendrait aux seules étoiles. Dimitri, ayant prestement absorbé son premier verre, attaquait déjà le second.
Dites-moi, que signifie toute cette histoire à propos d'une épidémie dans le secteur américain? Je voulais me rendre là-bas par le même vol que vous, et je me suis entendu répondre « Non, professeur, nous sommes désolés, mais la quarantaine a été décidée jusqu'à nouvel ordre. » J'ai tiré toutes les sonnettes possibles, sans résultat. Alors je compte sur vous, Heywood, pour me dire ce qu'il en est réellement.
Floyd eut un grognement intérieur. Nous y voilà, se dit-il. Je serai beaucoup mieux à bord de la navette en route vers la Lune.
Cette quarantaine est une simple mesure de sécurité, dit-il prudemment. Nous ne sommes même pas certains qu'elle soit nécessaire, mais nous préférons prendre nos précautions.
Mais de quelle maladie s'agit-il? Quels sont les symptômes? Insista Moïsevitch. Cela pourrait-il être d'origine extraterrestre? Voulez-vous que nos services médicaux vous aident?
Désolé, Dimitri, mais on m'a demandé de ne rien vous dire pour l'instant. Je vous remercie de votre offre, mais je crois que nous pourrons nous en tirer par nous-mêmes.
Il me paraît étrange que l'on vous envoie, vous, astronome, pour une épidémie.
Ex-astronome, il y a des années que je travaille à la recherche, Dimitri.
On me considère à présent comme un expert scientifique, ce qui signifie que je peux m'occuper de tout. Alors, vous savez ce que signifie AMT1.
Miller faillit s'étouffer, mais Floyd était plus solide. Il regarda son vieil ami dans les yeux et dit calmement
« AMT1 ? Quelle drôle de dénomination !» Où avez-vous entendu parler de cela?
Ça va, Heywood, vous ne me tromperez pas. Mais si jamais vous vous trouvez devant quelque chose de trop fort, je souhaite que vous n'attendiez pas qu'il soit trop tard pour appeler à l'aide.
Miller regarda ostensiblement sa montre.
Embarquement dans 5 minutes, docteur. Je crois que nous ferions bien d'y aller.
Bien qu'il sût parfaitement qu'il leur restait encore au moins une demi-heure, Floyd se leva en hâte. Trop vite, car il avait oublié la pesanteur réelle. Il dut s'agripper à la table pour ne pas s'envoler.
« J'ai été très heureux de vous rencontrer, Dimitri.
fit-il sans trop de conviction. « Bon voyage de retour. Je vous appellerai à mon arrivée. »
Comme il franchissait le contrôle américain, Floyd remarqua à l'adresse de Miller « Eh bien, j'ai eu chaud. Merci d'être venu à mon aide.
« Vous savez, docteur, dit l'officier de sécurité, j'espère qu'il se trompe. »
« À propos de quoi ?»«
Du fait que nous risquons de nous trouver devant quelque chose de trop fort pour nous. »
« Ça, dit Floyd d'un air déterminé, c'est bien ce que j'ai l'intention de découvrir. »
45 minutes plus tard, le vaisseau lunaire Ares 1B quittait la station. Il n'y eut pas le déchaînement de puissance et de bruit qui accompagnait les départs depuis la Terre, mais un simple sifflement presque inaudible au moment où les moteurs à plasma déversèrent dans l'espace leur faible courant électrifié. La poussée se poursuivit durant un quart d'heure et l'accélération était si timide qu'elle n'empêchait nullement de se déplacer dans la cabine. Lorsqu'elle prit fin, pourtant, le vaisseau n'avait plus aucun lien avec la Terre. En s'éloignant de la station, il s'était libéré de l'emprise de la gravité et il constituait à présent une sorte de nouvelle planète qui tournait autour du Soleil, selon sa propre orbite. Floyd se trouvait seul dans la cabine prévue pour 30 passagers. Il était étrange de voir tous ces sièges vides autour de soi et de profiter des attentions exclusives du steward et de l'hôtesse, sans parler du pilote, du copilote et des deux ingénieurs. Floyd doutait que beaucoup d'hommes au cours de l'histoire eussent bénéficié d'un tel service. Il se souvint de la remarque cynique d'un certain pontife. « À présent que nous détenons la papauté, profitons-en. » Eh bien, ma foi, il n'avait qu'à profiter de ce voyage et de l'euphorie qu'engendrait la pesanteur. Avec le poids disparaissaient la plupart des soucis. Quelqu'un avait dit une fois que si l'on pouvait être terrifié dans l'espace, on ne pouvait y être malheureux. C'était vrai. Stewart et hôtesse, semblait-il, étaient bien décidés à le faire manger durant les prochaines 25 heures, et ils ne cessaient de repousser des plats qu'ils n'avaient pas commandés. Le fait de manger en gravité zéro ne posait pas de vrais problèmes, contrairement aux sombres pronostics des premiers astronautes. Floyd était assis devant une table très ordinaire, à laquelle on fixait assiettes et plats, comme sur un bateau par gros temps. Tous les mets, de quelque façon, possédaient un certain pouvoir adhésif afin qu'ils ne quittent pas l'assiette pour voyager dans la cabine. Ainsi, une côtelette était retenue prisonnière par une épaisse sauce, une salade rigoureusement maîtrisée par ses ingrédients. Avec un peu d'astuce et de pratique, on réduisait considérablement le nombre des plats à proscrire, tels les soupes chaudes et les pâtisseries par trop friables. Pour les liquides, c'était différent. Ils étaient tous présentés sous tube. Toute une génération de volontaires héroïques, quoique peu enthousiastes, avait contribué à la mise au point des toilettes qui étaient maintenant à peu près sûres. Floyd en fit l'essai dès le début de la période de chute libre. Il se retrouva dans un petit réduit cubique pourvu de tous les aménagements que l'on trouvait sur un avion, mais baignant dans une lumière rouge particulièrement pénible à l'œil. Un avis gravé annonçait « Très important, pour votre confort, veuillez lire attentivement les instructions. » Floyd s'assit, selon une vieille habitude qui persistait même en apesanteur, et lut plusieurs fois la notice. Lorsqu'il fut certain qu'aucune modification n'avait été apportée depuis son dernier voyage, il appuya sur le bouton marqué départ. Tout près, un moteur électrique se mit à vrombir, et Floyd sentit le mouvement qui s'amorçait. Ainsi que le prescrivait la notice, il ferma les yeux et attendit. Une minute après, une sonnerie retentit et il rouvrit les yeux. La lumière était devenue d'un rose pâle reposant et, fait beaucoup plus important, la gravité était rétablie. Seule une faible vibration indiquait qu'il s'agissait d'une gravité de fortune entretenue par la rotation du compartiment des toilettes. Floyd prit un morceau de savon, le lâcha et le regarda dériver lentement. La force centrifuge ne devait représenter en fait que le quart de la pesanteur normale. Mais cela suffisait pour que les objets se déplacent dans la bonne direction, ce qui était particulièrement important en un tel endroit. Il appuya sur le bouton stop et ferma de nouveau les yeux. Lentement, la sensation de poids reflua, tandis que cessait la rotation. La sonnerie retentit par deux fois et la lumière rouge fit sa réapparition. La porte se retrouva alors en position correcte et Floyd put sortir. Il se glissa rapidement dans la cabine et ses semelles de velcro adhérèrent aussitôt au tapis. Il avait depuis longtemps épuisé les joies de l'apesanteur et appréciait le fait de pouvoir marcher à peu près normalement. Il avait largement de quoi s'occuper. Lorsqu'il en eut assez des rapports officiels et des mémos, il brancha son mini-bloc d'informations sur le circuit du vaisseau et parcourut les dernières nouvelles de la Terre. Il formait l'un après l'autre les numéros de code des principaux journaux électroniques du monde. Il connaissait par cœur la plupart et n'avait pas besoin de consulter la liste qui figurait au dos du bloc. En jouant sur la mémoire de la visionneuse, il pouvait consulter la première page et choisir rapidement les rubriques qui l'intéressaient. Chacune avait son propre numéro de référence et, lorsqu'il le formait, le rectangle qui avait les dimensions d'un timbre-poste s'agrandissait jusqu'à emplir l'écran. La lecture achevée, il suffisait de revenir à la vision de la page entière et de choisir une autre rubrique. Parfois, Floyd se demandait si le mini-bloc et la technologie fantastique qu'il supposait représentaient le sommet des découvertes humaines en matière de communication. Il se trouvait en plein espace, s'éloignant de la Terre à des milliers de milles à l'heure, et pourtant, en quelques fractions de secondes, il lui était possible de consulter n'importe quel journal. Le mot même de journal était une survivance anachronique en cet âge électronique. Le texte se modifiait automatiquement d'heure en heure. Même en ne lisant que la version anglaise, on pouvait passer sa vie entière à absorber le flot sans cesse changeant des informations retransmises par satellite. Il était difficile d'imaginer que le système pût être modifié ou amélioré. Pourtant, songea Floyd, tôt ou tard, il disparaîtrait pour être remplacé par quelque chose qui renverrait les mini-blocs au rang des presses de Gutenberg. La lecture des journaux électroniques amenait souvent une autre réflexion. Plus les moyens de diffusion se faisaient merveilleux, plus barbares, atterrants et choquants étaient leurs contenus. Accidents, désastres, crimes, menaces de conflits, éditoriaux sinistres, tels semblaient être les sujets principaux des articles qui se propageaient dans l'espace. Floyd en venait parfois à se demander si tout cela était vraiment aussi terrible qu'il y semblait. Les informations d'Utopie, après tout, auraient sans doute été atrocement ennuyeuses. De temps en temps, le commandant de bord ou un autre membre de l'équipage entrait dans la cabine et échangeait quelques mots avec lui. Chacun semblait lui témoigner beaucoup de respect et être dévoré de curiosité quant à l'objet de sa mission, mais ils étaient tous trop polis pour poser des questions ou même faire des allusions. Seule la mignonne petite hôtesse se montrait parfaitement à son aise en sa présence. Floyd découvrit très vite qu'elle était originaire de Bali. Elle avait emporté au-delà de l'atmosphère terrestre un peu de la grâce et du mystère de son île natale encore préservée. L'un des souvenirs les plus agréables et les plus étranges de ce voyage devait rester pour Floyd une démonstration de danse balinaise sous gravité zéro, tandis que se profilait comme décor le croissant bleu vert de la Terre. Il y eut une période de sommeil durant laquelle la lumière baissa dans la cabine. Floyd attacha ses bras et ses jambes aux fixations élastiques qui devaient l'empêcher de dériver involontairement. Le procédé pouvait paraître assez barbare, mais ici, en apesanteur, un lit sans matelas était encore plus confortable que la plus moelleuse des couches sur Terre. Lorsqu'il se fut arrimé, il sombra rapidement dans le sommeil, mais il s'éveilla bientôt à demi et fut abasourdi par l'étrangeté de ce qui l'entourait. Pendant un instant, il eut l'impression de se trouver au milieu d'un lampion japonais. Puis il décida fermement « Rendors-toi, mon vieux, ce n'est qu'une navette lunaire très ordinaire. » Lorsqu'il s'éveilla de nouveau, la lune occupait la moitié du ciel et les manœuvres de décélération allaient commencer. Les baies s'ouvraient maintenant sur l'espace libre et il se rendit au poste de contrôle. Sur les écrans de proue, il put alors observer les ultimes phases de la descente. Les montagnes lunaires grandissaient à vue d'œil. Elles ne ressemblaient en rien à celles de la Terre. Il leur manquait les sommets neigeux, les touches vertes de végétation et les couronnes de nuages. Néanmoins, les violents contrastes d'ombre et de lumière leur conféraient une surprenante beauté. Ici, Les lois de l'esthétique terrestre ne jouaient plus. Ce monde avait été façonné par des forces étrangères qui, durant des éons de temps, étaient demeurées inconnues de la terre jeune et verte avec ses glaciations, ses mers changeantes et ses chaînes de montagnes qui se dissolvaient comme les brumes à l'aube. Ici, le passé, jusqu'à maintenant, avait été inconcevable. Le passé, pas la mort, puisque la Lune n'avait jamais vécu. À présent, le vaisseau se trouvait presque à la verticale de la ligne séparant le jour de la nuit, au-dessus d'un chaos d'ombres mêlées et de pics isolés qui captaient les premières lueurs de l'aube lunaire. L'endroit était dangereux pour un éventuel débarquement, même avec l'assistance d'instruments électroniques. Mais le vaisseau s'en éloignait lentement, se dirigeant vers la face obscure. Comme son regard s'accoutumait à la faible clarté extérieure, Floyd vit que le paysage plongé dans la nuit n'était pas complètement obscur. Il était habité d'une fantomatique clarté qui révélait nettement les pics, les vallées et les plaines. La terre géante flottait dans le ciel. Sur le panneau de contrôle, des lueurs scintillaient au-dessus des écrans radars. Des chiffres naissaient sur les voyants des ordinateurs au fur et à mesure que se rapprochait le sol. Celui-ci était encore à plus de 1000 milles lorsque les fusées amorcèrent le freinage. Durant des siècles, la Lune parut emplir le ciel tandis que le Soleil glissait sous l'horizon, jusqu'à ce qu'un seul et immense cratère occupe le champ de vision. La navette descendait vers les pics qui se dressaient au centre, et Floyd vit soudain que l'un d'eux clignotait sur un rythme régulier. Sur Terre, cela aurait pu être une balise d'aéroport, et il contempla cette lueur, la gorge serrée. C'était la preuve indéniable que les hommes étaient installés sur la Lune. Le cratère grandissait encore, et ses parois s'enfonçaient à l'horizon. Les petits cratères qui marquaient le fond prenaient leur véritable dimension. Certains avaient des milles de large, et ils auraient pu contenir des villes entières. Sous contrôle automatique, le vaisseau glissait dans l'espace étoilé vers le paysage nu qui brillait doucement sous la Terre. Une voix se fit soudain entendre par-dessus le sifflement des fusées et les échos électroniques.
« Contrôle de clavier, ça vole spécial 14. OK pour l'approche. Veuillez procéder à vérification manuelle du verrouillage, de la pression hydraulique et du gonflement des amortisseurs. »
Le pilote appuya sur diverses touches lumineuses et des voyants verts s'illuminèrent.
« Verrouillage, pression hydraulique et amortisseur OK !»«
Bien reçu !»
dit la Lune, et la descente se poursuivit en silence. Pourtant, une vive conversation continuait de se dérouler, mais elle était entretenue par les machines qui se transmettaient des trains d'impulsion à des vitesses que leurs constructeurs n'auraient pu atteindre. Déjà, plusieurs pics se dressaient au-dessus de l'astronef. Le sol n'était plus qu'à quelques centaines de mètres, et la balise était devenue une brillante étoile qui dominait les bâtiments bas et les véhicules aux silhouettes baroques. Au dernier stade, les fusées parurent moduler quelques mystérieuses chansons, s'interrompant parfois afin de corriger leur poussée. Brusquement, un nuage de poussière s'éleva et masqua toute chose. Les fusées crachèrent une dernière fois, et l'engin oscilla légèrement comme un canot pris dans les lames. Il fallut quelques secondes à Floyd pour comprendre que le silence était revenu en même temps qu'une faible pesanteur. Sans le moindre incident, en quelques heures, il avait fait l'extraordinaire voyage dont les hommes avaient rêvé pendant 2000 ans. Il venait de se poser sur la Lune.